Et il se trouve que parmi mes fantasmes, il y avait celui de partir le nez au vent, sans but, sans démonstration à opérer, et de rencontrer des Français ici ou là. Bon, je suis assez voyageur, ce qui est un petit peu différent de la position du touriste, hein. Et donc j'avais depuis très longtemps envie de faire ça, mais je n'étais pas du tout sûr de savoir le faire, et les éditeurs encore moins. Ce qui fait que j'ai eu du mal à trouver un éditeur. Pourquoi ? Parce que j'ai publié 7 livres avant celui-ci, mais c'était des livres d'analyse. Donc là, j'étais dans des terrains plus ou moins connus, même si j'avais essayé d'élargir mon analyse de la politique vers un peu la sociologie dans l'hystérie identitaire, qui est un mauvais livre, mais il y avait une certaine intuition quand même, et vers des considérations pseudo-philosophiques avec mon livre sur le cynisme. Mais là, il s'agissait de quelque chose de différent, une exploration de terrain pour laquelle, a priori, évidemment, j'étais pas très, très armé. Alors, les motivations, il faut toujours dire, non seulement d'où l'on parle, mais pour quelles raisons on fait ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a une motivation négative, hein, parfois dans la vie, c'est que je suis fatigué avant de voir la fatigue de la modernité. Je me sentais, en tant que journaliste politique depuis une trentaine d'années, fatigué par le microcosme politico-journalistique. Le journaliste, d'ailleurs, n'étant pas forcément plus fréquentable que les politiques. Et donc, j'avais vraiment envie de prendre l'air. Et j'avais une autre motivation, celle la plus positive. C'est une question alors un peu sociologique ou un peu philosophique. C'est qu'est-ce que c'est que le réel ? Le réel, on dit, il est construit, en effet, les débats publics... tourne toujours à peu près autour des mêmes questions. Enfin, parfois, il y a des questions qui surgissent, d'autres qui s'effacent. Les médias aussi parlent de la société en sélectionnant certaines franges de la société. Par exemple, on parle des quartiers, des banlieues, et toujours avec un certain prisme, toujours à l'occasion de certains événements. Donc je me disais, avec une démarche dont j'assumais la naïveté, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la réalité que l'on trouve lorsqu'on rencontre les gens, lorsqu'on se balade, guidé par la fée du hasard, enfin, sans forcément chercher ceci ou cela ? C'est ce qui fait que j'ai entrepris ce voyage sans angle. Hein, j'aurais pu choisir la France qui souffre. Bon, à l'heure actuelle, en période de crise, j'aurais pas eu de mal à trouver des illustrations. Mais, alors là, pour le coup, ça aurait été désespérant. Alors que je ne pense pas que mon livre l'ait, mais bon, on y reviendra. J'aurais pu choisir la France des terroirs, ça c'est le côté positif. Mais là, j'en ai lu une vingtaine, ça suppose un talent littéraire que je n'ai pas, donc j'ai été épargné par cette tentation. Donc, j'ai procédé empiriquement de la manière suivante. Il ne faut surtout pas aller partout, hein, la France est un grand pays, extrêmement divers. Donc j'ai simplement essayé de préserver, respecter un certain équilibre à la fois géographique et sociologique. Je crois qu'on ne peut pas faire un voyage en France si on ne va pas en Bretagne. Ça fait partie, c'est une région identifiée et en même temps très française. Il faut aller quelque part dans l'Est. Alors on peut choisir entre la Lorraine et l'Alsace, c'est assez différent. Moi, j'ai choisi la Lorraine parce que ma belle famille est lorraine. Donc il y a comme ça des critères qui interviennent, qui sont des critères... qui n'ont rien de scientifique, évidemment. Aller dans le nord, alors là j'ai choisi de parcourir à pied la conurbation lilloise, donc Lille-Roubaix-Tourcoing à pied. C'est pas très long, hein, c'est pas héroïque, mais c'est vrai qu'à pied, ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas en voiture. Hein. On rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas. Il y a d'autres régions que j'ai fait en vélo, parce que le vélo est encore un autre mode de locomotion qui permet de rencontrer des gens. Parce que, par exemple, j'ai fait la presqu'île du Cotentin en vélo, et je n'avais pas mesuré d'ailleurs à quel point il y avait des pentes et des descentes, surtout sur un vélo chargé, puisque j'avais mes 3 sacoches, puisqu'il fallait que je tienne quand même une quinzaine de jours. Mais c'est un avantage, parce que quand vous suez dans les côtes, eh ben les gens vous prennent en compassion. Et donc ça favorise une prise de contact avec des gens qui vous croient quand vous dites que vous faites un livre, que vous n'êtes pas... Enfin, au début, ils vous prennent un peu pour un luberlu. D'ailleurs, ils n'avaient pas forcément complètement tort. Mais au bout d'un moment, on établit le contact. Alors, ce qui m'amène d'ailleurs à la difficulté de l'entreprise, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un au bord de la route, ou quand vous téléphonez à un chef d'entreprise en disant « je suis là, j'aimerais vous voir, parce que je prépare un livre, etc. » Dans un premier temps, les gens sont extrêmement méfiants. Déjà, par les temps qui courent, les gens sont méfiants. Et puis, ils se demandent quelle est l'idée derrière la tête. Par exemple, le chef d'entreprise ne voit des journalistes que dans deux cas de figure. Soit il est au bord de la faillite, soit il a une grève. Bon, là, il se demande si on n'a pas décelé peut-être un mouvement social avant-coureur ou si ses bilans sont déjà un peu pourris. Donc il y a une certaine méfiance. Et c'est vrai qu'on est dans des sociétés où il y a cette réaction première. Mais une fois qu'on franchit ce mur de la méfiance, alors là, les gens sont intarissables. Ça devient même un problème. Beaucoup de mes entretiens ont duré 2 heures. Je pense que beaucoup de gens m'ont dit des choses qu'ils n'ont pas dit ni à leur femme, ni à leur mari, le cas échéant. Hein. Et alors, j'avais pas de questionnaire. Hein, c'était un entretien non directif, comme disent les sociologues. Mais vraiment, non directif. Parce que des fois, ils disent ça, mais en réalité, bon. Et alors, de façon peut-être peu surprenante, ils parlent d'abord de leur travail. Ils parlent d'eux et ils parlent de leur travail. J'aurais pas fait parler beaucoup politique. D'abord parce que je suis un peu fatigué de ça, et puis parce que je me suis rendu compte que les discours étaient assez répétitifs. Là, on confirme, j'ai quelques éléments là-dessus, mais on confirme cette défiance extraordinaire à l'égard des élites de tout poil, hein, élite politique, élite économique et élite médiatique. D'ailleurs, au bout d'un moment, je ne disais plus que j'étais journaliste, parce que on parlait des types de la télévision et tout ça, qui sont quand même dans un autre univers que le mien. Donc j'en avais un peu assez, donc je disais que j'étais écrivain. Quand on écrit un livre, on est un petit peu écrivain tout de même. Voilà. On a des gens qui parlent beaucoup de leur boulot, qui parlent aussi beaucoup de l'endroit où ils sont, de l'endroit où ils vivent. Mais je pense que c'est peut-être par là, avec des fois des notations et des remarques qui sont... très, très concrète, hein, très, très triviale, mais c'est par là qu'on peut percevoir des questions qui ensuite peuvent être interprétées à un niveau politique. Alors j'en viens à quelques enseignements de ce périple, hein, qui en tout, je cite plus de 300 personnes, c'est plus de 200 jours d'enquête, en 2 années. Enfin, c'est vraiment un travail qui a été assez lourd, mais qui a été passionnant à faire. Là-dessus, je le referai volontiers. Je cherche rien à démontrer, mais j'ai quand même réussi, après coup, à trouver des choses communes à cet ensemble très, très bigarré de témoignages. Le premier enseignement, l'américanisation du territoire. Attention, hein, je n'ai pas découvert des secrets extraordinaires. Peut-être que vous aurez l'impression que je découvre la Lune. Mais en même temps, c'est jamais forcément interrogé en tant que tel ou décrit de cette manière. Quand on se balade dans ce beau pays, du nord du Béarn à la Haute-Marne, en passant par la Bretagne, la Normandie, le Tarn, que sais-je encore, on est frappé d'une chose, c'est que on retrouve les mêmes paysages de géographie humaine un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a une homogénéisation du territoire qui a été assez impressionnante. Une crise de la ville dans sa conception traditionnelle, la ville qui est ville européenne, qui était un mélange, je dis qui était, donc j'emploie le passé, un mélange à la fois d'activité et de population. Et on se trouve confronté, j'ai surtout fait des villes moyennes, hein, pas fait beaucoup de métropoles, à part donc la métropole illoise, car c'est des univers en tant que tels. Mais c'est vrai que dans toutes ces villes moyennes ou petites, le cas de figure est toujours à peu près le même. Vous avez un centre-ville, qui est rebaptisé cœur de ville dans le jargon des élus, qui est colonisé par les magasins de fringues. Et en plus de ça, ils se ressemblent tous, puisque en majorité, ce sont des magasins franchisés. Donc on les trouve, ce sont les mêmes à Dunkerque et à Perpignan. Et avec aussi de la téléphonie mobile, et puis aussi quelques jeunes mendiants accompagnés de chiens. Bon. On a un paysage qui est assez... Et des banques, naturellement. Bon. Et c'est des centres piétonniers, mais plus ou moins rikiki, avec d'ailleurs une lutte des commerçants contre ces centres piétonniers. Très bien. Bon. Et puis, au nord, il y a une zone industrielle, qui souvent d'ailleurs est une zone artisanale. Tout autour, des zones pavillonnaires qui s'étendent de plus en plus et qui se prolongent en deuxième couronne par des zones périurbaines, là qui sont très intéressantes, parce que ces zones périurbaines, c'est la fausse campagne. Et quand on rencontre les gens, il y a quelques agriculteurs qui survivent, mais ça devient, par exemple, je vous cite l'exemple de Pampelonne, dans le Tarn, à une vingtaine de kilomètres d'Albi. Pour son bonheur ou pour son malheur, il y a une voie express qui a été créée entre Albi et Pampelonne. Et donc Pampelonne a vu s'implanter des tas de jeunes ménages attirés par le prix de l'immobilier, qui est nettement plus bas à Pampelonne qu'à Albi. Et le maire en est un petit peu désespéré parce qu'il se dit que ça devient un village dortoir et que ces nouveaux habitants ne vont pas du tout dans le village, dans les quelques commerces qui restent, parce qu'ils vont faire leurs courses dans l'hypermarché, dans les hypermarchés d'Albi, et que ça lui pose un problème, en dehors de la question de la coexistence entre... ces rurbains, ce n'est pas des néo-ruraux, hein, ce sont des rurbains, et les agriculteurs qui restent. Car les rurbains ont tendance à considérer que le coq chante extrêmement tôt et que les tracteurs gênent la circulation. Et puis il y a les vrais centres de ces villes qui sont les centres commerciaux. Là où bat le cœur de beaucoup d'agglomérations, là où les foules se rassemblent, ce sont des centres commerciaux qui sont évidemment en périphérie, où le spectacle parfois le plus dur n'est pas le Carrefour ou le Leclerc, etc., mais tous les magasins low cost qui, en chapelet, sont autour de ces centres. Alors, mais c'est là que, véritablement... on a les chances de rencontrer le plus de monde et c'est là que s'aimantent les populations. Alors, dans l'américanisation, il y a aussi, dans le zoning, la segmentation sociologique, sociale et parfois ethnique, c'est lié d'ailleurs, des territoires. Hein. C'est la question des quartiers immigrés ou d'origine immigrée. Hein. Il faut dire les deux, puisque là... alors, ce sont des quartiers où il peut y avoir une majorité de Français, mais qui ne parlent pas forcément français. Enfin, j'ai en mémoire le cas de la vieille ville de Grasse, qui pourrait être d'ailleurs un lieu d'attraction touristique, qui est assez belle, mais qui a été laissée complètement à l'abandon. Et donc, il y a une sorte d'enclave, et je me suis baladé pendant près d'une journée. Je n'ai pas entendu un mot de français, ce qui est quand même un peu étonnant. Sauf pays de merde, à un moment donné. Ce qui, évidemment, ne dénote pas forcément une intégration totalement réussie. Bon. Eh bien, on parle arabe. Non, on parle arabe. Et c'est vrai que quand on se balade dans plusieurs endroits, la balade à pied Lille-Roubaix-Tourcoing, vous passez d'un quartier populaire blanc... caucasien, pour parler politiquement correct, à un quartier populaire maghrébin ou d'origine maghrébine. Et c'est assez... Enfin, il y a une frontière. Il y a une frontière. Alors ça rappelle quand même aussi des formes d'américanisation du territoire. Avec des phénomènes... On dit des ghettos, d'ailleurs, sur les quartiers, comme le dit l'euphémisme médiatique habituel. C'est pas tout à fait vrai. En tout cas, pour les spécialistes, vous expliquent que ce sont des gens qui arrivent et des gens qui partent. Donc, c'est pas forcément des ghettos qui enferment les gens. Mais chaque quartier semble être spécialisé dans un certain niveau social. Et qui se lie aussi avec des caractéristiques en matière d'immigration et par exemple de fait de savoir si on est un immigré de fraîche date ou si on est dans une situation plus avancée sur le territoire. Avec des phénomènes aussi tristes que cocasses, j'ai en mémoire ce qui m'a été dit à Nangis, en Seine-et-Marne. Nangis voit arriver de plus en plus de familles noires, mais totalement françaises, et pas du tout d'origine immigrée, puisque ce sont des Français issus des dom-toms, souvent, qui travaillent dans les hôpitaux et dans le secteur social. Et ce sont des Français qui fuient la Seine-Saint-Denis. Ils trouvent que la coexistence avec les populations immigrées, d'origine immigrée, parfois remuante, des jeunes, est un peu pénible. Donc, quand ils ont un petit peu de... Bon, ils ont des salaires, ils sont fonctionnaires, donc ils s'endettent, et puis ils essayent d'avoir un petit pavillon à Nangis où le prix de l'immobilier n'est pas très cher. Mais là, ils ne sont pas du tout accueillis avec des fleurs, parce qu'on les prend pour des immigrés. Et c'est comme ça que Nangis est passé du Parti communiste, de la gauche à la droite, parce qu'en plus de ça, le maire avait eu l'idée de dire qu'il allait faire une nouvelle zone HLM, et tout de suite, les gens ont dit c'est la banlieue qui va débarquer, et donc c'est une catastrophe. Donc toutes les stratégies d'évitement, ça je les ai aperçues, je vous ai juste donné cet exemple, mais je les ai aperçues un peu partout, je les ai aperçues aussi... Si je vais être trop long, donc j'arrête sur ce point. Alors, à côté de cette américanisation, pas à côté, en contrepoint de cette américanisation, et de façon tout à fait logique, ça semble paradoxal, il y a, j'ai été frappé par l'attachement très fort des gens à l'identité régionale. C'est-à-dire que plus concrètement les régions françaises ressemblent les unes les autres, plus on est accroché à ce qui distingue sa région. Ça se traduit de façon triviale, mais je pense que dans l'identité française, c'est important, par le rapport à la nourriture, par les restaurants. C'est-à-dire que les spécialités régionales ne sont pas faites pour les touristes. En Bretagne, les crêperies ne tiendraient pas s'il y avait simplement les touristes. Dans le Tarn, j'ai mangé une omelette au cèpe excellente. Pas dans le Tarn, dans le Béarn, pardon, eh bien, on m'a expliqué que c'était que des gens du coin. Donc, il y a un attachement, alors, parfois, à des éléments de langue minoritaire, mais ça, c'est très, très minoritaire, hein, que ça soit le breton en Bretagne, le plat en Moselle, mais à ces caractéristiques d'identité régionale que sont, par exemple, le rapport à la nourriture. Deuxième... enseignement qui a traversé un petit peu ce voyage, c'est les prémices d'un exode urbain. Alors ça reste quelque chose de minoritaire, mais là, je crois qu'il y a un phénomène qui est un phénomène profond, qui va sans doute se développer dans les périodes qui viennent. C'est pas sans lien avec la fatigue de la modernité, que je détaillerai un peu plus loin. Il y a un certain ras-le-bol par rapport à nos métropoles trépidantes, et le fantasme de quitter Paris ou de quitter les grandes villes et de s'installer qui à la campagne, qui dans des petites villes ou des villes moyennes, est un fantasme qui se répand et il y a de plus en plus de gens qui passent à l'acte. J'ai rencontré, alors je ne cherchais pas spécialement ça, énormément de néo-ruraux, hein, ne pas les confondre avec les rurbains dont je parlais tout à l'heure, donc de gens qui ont quitté ces métropoles et souvent la région parisienne, qui sont installés. Par exemple, dans le pays de Puisaye, c'est pas très loin de Paris, hein, à l'ouest d'Auxerre, dans l'Yonne, c'était une zone marécageuse, un peu déshéritée. Et aujourd'hui, j'ai rencontré des tas de gens qui viennent de la région parisienne. Par exemple, un type, Xavier, qui était un peu producteur de télé, Canal+, tous ces milieux-là. Et puis, à un moment donné, il en a eu ras-le-bol. Il a eu quelques difficultés dans sa vie. Il s'installe dans une... Initialement, il avait une résidence secondaire dans la Puisaye. Et puis, il avait de plus en plus de mal à revenir sur Paris. Et puis, finalement, il y est resté. Il a divisé son salaire, enfin, ses revenus par trois. Mais il poursuit sa carrière artistique de photographe assez original. À côté de ça, il a un petit travail dans la communication du pays de Puisaye-Forterre. Et ma foi, il a l'air vraiment, enfin c'est ce qu'il dit, hein, mais parfois il faut croire les gens, il a l'air beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'auparavant. Dans la Creuse aussi, sur le plateau des mille vaches, où il n'y a pas mille vaches, hein, l'étymologie est très compliquée, il y a une sorte de contre-société, alors là c'est assez étonnant, de gens qui sont plus militants, mais qui ne sont pas des marginaux au sens des gens complètement à part, mais qui sont vraiment des gens originaux. J'ai rencontré, moi qui suis de culture autogestionnaire à l'origine, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Catherine, qui est maire de Faux-la-Montagne, qui est un village. Et donc, ce n'est pas une marginale quand on réussit à être maire quand même. Eh bien, elle travaille dans une scierie. C'était une bande de copains, là, très post-68 art, mais là, qui n'ont pas viré à la Serge Julie. Donc, ils voulaient s'installer et créer une entreprise. Eh bien, ils ont créé une scierie qui a du succès, qui embauche, et qui a pour caractéristique de rester autogérée, avec une égalité salariale et avec un patron, un PDG, pas un patron d'ailleurs, enfin un PDG, qui est tiré au sort, qui, comme chacun sait, est la méthode la plus démocratique, puisque l'élection est en réalité principalement élitiste, puisqu'on est censé choisir les meilleurs. On ne le fait pas forcément, mais c'est ça l'idée. Donc c'est assez étonnant de voir, beaucoup de gens, et ça, dans le paysage médiatique, ça n'apparaît pas, de gens qui vivent déjà un peu différemment. Et c'est en ce sens-là que mon livre n'est pas désespérant, parce que je vois des gens qui font leur petit truc dans leur petit coin de façon relativement positive. Alors, sans parler de gens, j'ai aussi vu des gens plus marginaux dans les Cévennes, mais ça, je passe parce que c'est plus connu. Dans le côté exode urbain et phénomène de fond, il y a, alors c'est très concret, mais en même temps, je pense que c'est significatif, le mouvement des locavores. Hein, vous connaissez les AMAP, les associations de défense de l'agriculture, des gens qui viennent vous... c'est pas les gens y viennent, c'est vous êtes obligé d'aller chercher des cajots de carottes. Ça, c'est une démarche militante, mais j'ai vu beaucoup de phénomènes de vente directe, beaucoup d'agriculteurs qui pratiquent la vente directe et beaucoup de gens qui ont envie de maîtriser un petit peu ce qu'ils mangent et de faire vivre l'agriculture locale. Et je pense que là, on a une critique un peu en acte de la mondialisation ou de ces phénomènes d'éloignement entre la production et la consommation. Et là encore, je pense que c'est un phénomène qui est minoritaire, bien sûr, mais qui est sans doute assez révélateur. Troisième enseignement. J'ai rencontré beaucoup de ce que j'appellerais ici faute de mieux, mais j'ai pas mis ça d'ailleurs dans le livre, des souffrances sociales ordinaires. C'est-à-dire qu'on parle, bon, là je passe sur le côté le chômage, la pauvreté, etc. Bon, sur des choses plus concrètes, mais en même temps, le chômage peut être concret, mais je veux dire peut-être plus des choses plus banales, mais en même temps qui sont revenues de façon assez récurrente. Le manque de temps. Et c'est là que intervient ma fatigue de la modernité. T'es fasciné par le nombre de gens très divers, hein, puisque j'ai vu aussi bien des ouvriers, des paysans, des chefs d'entreprise, des agents immobiliers, des curés, un ornithologue, un chasseur d'ornards. Enfin, c'est très divers, hein, mon public, qui se plaignent de manque de temps, donc d'un emploi du temps pressuré. Alors c'est à la fois le temps de travail qui devient trop dense, les gens se plaignent vraiment, il y a une souffrance sur la densification du temps de travail, hein, à partir de la compétitivité, ça on peut l'imaginer. Alors par exemple Fabrice, un postier, que j'ai rencontré qui me raconte à quel point c'est terrible, parce que pour lui, le métier de postier, c'était, c'était en Normandie, ça consiste aussi à avoir un contact avec la clientèle, à discuter, à avoir ce rôle-là, et qu'il n'a plus ce temps, et qu'il trouve qu'il fait mal son travail, qu'il en souffre. D'ailleurs, toute cette idée de perte de métier, d'être obligé de bâcler son travail, c'est une souffrance énorme. J'ai rencontré beaucoup de pré-retraités, hein, puisque dans beaucoup d'usines, beaucoup d'entreprises, on fait partir les gens, et puis les gens sont fatigués, et on les fatigue. Et beaucoup disent, mais de toute façon, je suis parti, hein, je pense à des ouvriers de fonderie de Haute-Marne, parce que aussi, j'ai plus autant de plaisir à faire mon travail, parce que je pense que le travail est moins bien fait. Hein, les pièces sont de moins bonne qualité, c'est pas fait pour durer, c'est de la saloperie, etc. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez profond. Le temps de transport, alors là, ne croyez pas, pauvres franciliens, que ça nous est réservé. On a des embouteillages autour de tas de villes. Les gens habitent en fonction de l'explosion de prix de l'immobilier de plus en plus loin de leur lieu de travail. Et il y a l'effet paradoxal, c'est-à-dire plus on facilite les transports avec ces fameuses voies express, ces contournantes, et plus les gens, on pourrait dire, ça permet de gagner du temps. Pas du tout, ça permet d'aller plus loin. Donc il y a énormément de gens qui habitent à 30, 40, 50, 60 kilomètres pour avoir leur maison, et évidemment, ils le payent d'un emploi du temps terrible. D'où le stress. Et d'où aussi, des petites choses, la consommation d'alcool. On m'a parlé beaucoup de l'alcool. Alors moi, je ne suis pas un buveur d'eau minérale réputé, mais tout de même, hein, j'ai en mémoire, ce n'est pas que des vieilles barbes qui m'ont parlé de ça. Par exemple, à Saintes, dans cette ville pourtant plutôt positive, hein, là, c'est d'ailleurs le titre du chapitre sur la qualité de la vie, les Charentes-Maritimes, c'est pas si mal. Ben, non seulement le policier municipal m'a dit que son grand problème, c'était d'évacuer des lycéens qui s'adonnaient au fameux beach drinking, vous savez, l'alcoolisation rapide, dans le parc public. Donc ils avaient dû prendre un arrêté municipal pour interdire ça. Alors ils raccompagnent chez les parents, mais les parents les engueulent en disant « mais ils sont libres ». Aussi l'irresponsabilité parentale, j'ai eu des trucs assez extraordinaires, où quelqu'un ramenait un jeune qui roulait sous la pluie avec un vélo moteur, c'était pas à Saintes, c'était dans un autre endroit, c'était en Haute-Marne, sous la pluie, sans lumière, sans casque, il ramène chez lui, et les parents engueulent en disant il a bien le droit de sortir. Il y a des choses assez étranges. Mais pour rester sur l'alcool, c'est aussi donc une sympathique bande de jeunes qui fait des concerts rock alternatifs qui m'a dit qu'ils étaient eux-mêmes, et ça, ce n'est pas des vieilles barbes, hein, eux-mêmes inquiets du type de consommation des jeunes générations. Les maladies psychiques, les blessés de la vie. Alors ça, quand on se balade comme ça, le nombre de gens, mais ça, à Paris, il n'y a pas besoin de faire un voyage en France pour s'en rendre compte. Mais peut-être plus intéressant, j'ai rencontré beaucoup de travailleurs sociaux, mais quand on discute très librement avec eux, travailleurs sociaux qui n'ont pas forcément d'ailleurs ce titre. Je pense à un dénommé Germain, des personnages. J'ai rencontré beaucoup de personnages très attachants que j'ai rencontrés à Pau. C'est le fondateur de la plus grande communauté Emmaüs de France, à Pau, mais il est fâché avec sa direction, c'est une forte tête, et qui m'explique à quel point tous les blessés de la vie qu'il recueille sont des gens qui ont eu des accidents de la vie, qui ont donc leur posé des problèmes psychologiques, et que nos sociétés ne savent pas soigner ça. Et visiblement, dans la grande pauvreté, dans la vraie marginalité, il y a ce genre de problèmes. Et il faudrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles nos sociétés, qui investissent tant d'argent sur la santé physique, parfois au-delà du raisonnable, on essaie de maintenir en vie des gens jusqu'à je ne sais quel âge, avec je ne sais quelle maladie, mais pour la santé psychique, nos sociétés en sont encore au stade du marabout. Enfin, j'exagère un peu, mais en tout cas, beaucoup de gens ne sont pas soignés. Ce qui m'amène à un élément très important dans cette fatigue de la modernité, le nombre de gens qui m'ont dit « mais Alors, j'ai eu beaucoup de personnes âgées parce qu'elles sont peut-être plus disponibles. Donc, il faut se méfier du témoignage des personnes âgées parce qu'ils ont tendance, évidemment, à verser dans la nostalgie. Mais en même temps, il faut les écouter parce que, par définition, c'est les seuls à pouvoir comparer les époques. Le jeune aura du mal à savoir comment c'était avant. Et le discours très général, c'est pas de dire « c'était mieux avant ». C'est pour ça qu'il n'y a pas de rejet de la modernité. Les gens ne veulent pas revenir en arrière, si tant est que ce soit possible. Donc, la plupart des gens que j'ai rencontrés, y compris des personnes âgées, ils sont bien contents de l'amélioration fantastique de notre niveau de vie et donc du confort que ça représente. Ils ne le sous-estiment pas. Donc, ils disent « c'est mieux maintenant, mais les gens sont moins heureux ». Alors, on peut dire « bon, ben, c'est des vieux, ils regrettent leur jeunesse ». Mais enfin, il y a quand même quelque chose. Et peut-être que l'explication de ce paradoxe, c'est la qualité des relations humaines. La qualité, pas simplement des relations sociales. J'emploie à dessein le terme de relations humaines. Et là aussi, elle est particulièrement dure. Quand on habite la région parisienne, les métropoles, c'est peut-être pour ça que les gens veulent les fuir. Vous prenez votre vélo, vous faites engueuler, les vélos ne respectent pas les piétons, personne ne respecte personne. Bon. Il y a véritablement quelque chose qui... fait souffrir. Et là aussi, ce sont des choses très, très concrètes. Les fameuses incivilités, alors elles ont traversé tout mon voyage. À Saintes, pour rester dans le même coin, le responsable des parcs et jardins est sidéré du nombre de gens qui volent les petites fleurs dans les parterres. Ils les volent. Et quand ils sont pris sur le fait, ils disent « mais enfin, je paye des impôts locaux ». Donc, incivilité et la solitude. Alors, solitude et manque de temps, ça, j'ai voulu rencontrer quelques curés. Personne ne rencontre les curés aujourd'hui. Mais c'est un curé qui m'a parlé le mieux du problème du temps en parlant de rythme de vie endiablé. Ça, il était bien placé pour... Et lui-même, maintenant, il est curé. Il était curé à Ponto Combo. Enfin, il est toujours. Et il est obligé de courir dans différentes communes parce qu'il n'y a plus assez de curés. Voilà, donc ils ont un problème de temps et ils sont sidérés aussi. Alors par exemple, j'ai vu un pasteur aussi dans le Tarn, parce qu'il faut quand même varier. Hein. Donc j'ai vu un imam à Tourcoing, il me manque un rabbin, mais on ne peut pas tout faire. Hein. Et mon pasteur dans le Tarn parlait aussi de choses assez intéressantes. Elle dit sur le... alors à la fois les gens manquent de temps et ils s'organisent pour ne pas avoir de temps libre. Et elle, parce que ce pasteur femme, était sidérée par le fait qu'elle avait beaucoup de jeunes. Et les parents leur additionnent un nombre d'activités invraisemblables. Donc ils allaient à leur truc, je ne sais pas s'ils s'appellent le catéchisme pour les protestants, sans doute pas. Voilà. Mais entre un cours de danse et un truc de sport, et résultat, ils étaient complètement claqués. Et elle se demande si les gens n'ont pas des stratégies plus ou moins conscientes ou inconscientes pour éviter tout temps libre qui pourrait être peut-être un moment de remise en cause ou en tout cas d'introspection sur leur existence. Troisième et dernier point, rassurez-vous, l'héroïne négative de ce voyage à un niveau plus politique, c'est la mondialisation. Et pas simplement, elle est très critiquée. Et pas simplement par les couches populaires. Hein, ça, on lit ça dans les journaux. Ces pauvres ouvriers, ils ont peur des délocalisations. Ils ont peur. Alors, ils votent Front National, c'est affreux. Bon, très bien. Oui, il y a dans les couches populaires une hostilité forte à l'égard de la mondialisation. J'ai fait une randonnée pédestre en Haute-Marne. J'ai vu ça dans le journal local, donc je me suis pointé à la salle des fêtes. Cheminon, donc une forêt au nord de Saint-Dizier, et en discutant, je me suis présenté, hein, j'ai jamais piégé les gens, hein, j'ai toujours dit que c'était pour faire un livre et tout ça, et ça m'a permis de discuter avec des ouvriers des fonderies de cette vallée de la Marne. Alors c'est extraordinaire ces fonderies, beaucoup ont fermé, mais quelques-unes existent toujours. Ce sont des entreprises plutôt petites et que moyennes d'ailleurs, qui était familial. Aujourd'hui, ces entreprises, même de taille très modeste, sont la plupart du temps possédées par des fonds de pension. Ce qui fait que, même quand ces entreprises n'ont pas de difficultés particulières, ne sont pas des a priori déficitaires. On a besoin de produits de fonte. Enfin, parfois, d'ailleurs, c'est des produits qui sont assez sophistiqués. Hein, mais quel est le niveau de rentabilité? Comment il va-t-il être apprécié? Et donc, ces braves gars se disent qu'ils sont sous le coup d'avoir quelqu'un qui, un jour, débarque en hélicoptère, qui ne connaît personne, alors que le patron, il habitait la belle maison de maître à 10 km. Donc, il se sentait le minimum, sinon de responsabilité sociale, en tout cas de connaissance directe de ses salariés. Donc là, quelqu'un qui va raisonner dans un bureau aux États-Unis ou ailleurs, sur des lignes de bilan, en comparant cette fonderie à celle qui existe je ne sais où ailleurs en Europe ou en Asie, et qui va décider de leur sort. Quand bien même l'entreprise serait encore là dans 15 ans, c'est extrêmement anxiogène. Mais j'ai été frappé par la critique à l'égard de la mondialisation, aussi dans des milieux économiques chez les chefs d'entreprise. Alors, je n'ai pas vu des chefs de grandes entreprises, mais j'ai vu quand même beaucoup de chefs d'entreprises moyennes, petites, moyennes, moyennes supérieures, si je puis dire, et... Bon, des critiques très, très, très fortes à l'égard de cette mondialisation, concrètement, de ce libre-échange. Hein, libre-échange qui, en Europe, est extrêmement fort. Bernard, directeur de la sucrerie de Nangis, qui est la plus grande entreprise de ce coin-là, parle carrément de délire industriel. Et il explique à quel point, d'un point de vue du bilan environnemental, le côté d'importation du sucre, etc., un côté qui est fabriqué en Amérique du Sud, est un côté totalement aberrant, et que si on raisonnait sur l'ensemble des coûts, évidemment, on ne le ferait pas. En Bretagne, pourtant, où j'ai rencontré tous les chefs d'entreprise que j'ai vus, étaient plutôt optimistes, positifs, mais ils se battent avec ce qu'ils considèrent comme une règle du jeu qui n'est pas juste. Parce qu'ils disent, ben voilà, là-bas, les conditions sociales, salariales, de droit du travail, les conditions environnementales, les conditions de normes, de sécurité ne sont pas du tout les mêmes, et on met des bateaux entre eux et nous. Donc il y a un problème quelque part. Donc je ne sais plus qui m'avait dit ça, un patron qui me dit « Bon, c'est des règles du jeu, donc nous, on joue avec. Mais ces règles du jeu, on considère qu'elles ne sont pas justes. Mais c'est des règles qui sont fixées par d'autres. C'est pas le monde économique qui fixe ces règles du jeu. » Même si, évidemment, j'ai trouvé des gens qui... La mondialisation positive, elle est aussi dans mon livre. Il y a un petit entrepreneur qui avait réussi à exporter un cocktail fait à partir de cognac, de jus de fruits, et un hip tonic, ça s'appelle. Et donc, il a vendu ça dans des boîtes de nuit américaines. Et ça a plu. En réalité, il avait à peu près le même taux d'acidité que le Coca-Cola. C'est pour ça que les Américains avaient apprécié ça. Mais ils s'en étaient pas rendu compte. J'ai aussi rencontré un type assez étrange, un peintre danseur qui passe à la télé. Et alors, comme ça passe à France 24, il est célèbre dans le monde entier. Et donc, il fait des espèces de trucs d'entreprise un peu partout dans le monde. Bon, la mondialisation peut avoir des aspects positifs pour certains. Mais enfin, en majorité, c'est quand même des critiques que j'ai eues. Ah, juste une anecdote. Dans une entreprise de sous-traitance de matériel électronique, Synchronique, pour la citer, à Sainte, c'est assez drôle parce que, comme d'autres, ils essaient de faire une péréquation entre ce qu'ils produisent en France et puis ils ont des filiales dans des pays low cost, en l'occurrence la Tunisie. Et on m'a souvent dit ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essayent comme ça. Alors, ce qu'on gagne en Chine, ça nous permet de continuer. Bon, c'est quand même, ça pose un petit problème. Bon. Et il avait un de ses clients qui le poussait régulièrement à vraiment se délocaliser et à cesser de produire en France. Et puis un beau jour, ce client... lui a dit, bon, bah, écoutez, là, j'ai un neveu, ça serait bien, il est dans votre domaine, là, c'est un bon technicien ou cadre de ces matériels informatiques, il faudrait que vous le preniez en stage, vous ne pouvez pas le prendre en stage. Il dit, bah, si, si, mais je cherche un stage à Tudis. Et l'autre, mais vous foutez de ma gueule. Ah, mais c'est ça, hein, si on délocalise, on délocalise. Donc là, là, il avait pris en compte la dimension humaine du problème de façon assez subite. Un mot sur la désindustrialisation. J'ai voulu aller aussi dans une vallée industrielle en Savoie. Alors là, j'ai visité Ugitech, grande entreprise, avec énormément de gens qui passent en pré-retraite. Enfin, ils en sont à leur 15e, 20e plan de pré-retraite. Mais l'entreprise réussit à survivre en étant sur les créneaux de plus en plus technologiques. Mais jusqu'à quand ça durera, on m'a parlé, les Chinois ne sont pas encore exactement sur ces créneaux, mais ça vient. Il y a toujours un doute, là aussi, sur une certaine pérennité. Or, ce qui est très frappant dans ces voyages, c'est que, et c'est là que le déséquilibre des territoires pose problème, c'est que les gens sont très attachés à leur territoire. Moi, j'étais frappé du nombre de gens qui habitent encore là où ils sont nés. Ou c'est des gens qui ont changé de région, mais se sont installés, se sont enracinés. Le nomadisme à la mode Jacques Attali, c'est quelque chose d'extrêmement minoritaire. Or, équilibre des territoires veut dire une certaine base économique. De ce point de vue, j'ai été confronté à l'illusion généralisée de la poule aux œufs d'or touristique. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'endroits qui se disent « Bon, alors on perd nos industries, mais on va avoir les touristes ». Sauf que le problème, c'est que la France est un tellement beau pays, avec tellement de richesses touristiques, que c'est difficile de dire « Venez chez nous et pas ailleurs ». Hein, on peut dire « Voilà, regardez toutes les églises romanes qu'on a, on va faire un petit circuit, on fait un petit dépliant à l'office de tourisme, on crée des gîtes ruraux, etc. » Sauf que les églises romanes, il y en a vraiment dans des tas d'endroits. Donc le mythe bien mis en scène par Houellebecq dans son livre, d'ailleurs il parle de la Creuse, il y a des éléments un peu communs avec ce que j'ai pu voir, mais c'est un mythe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui sont dans ce fantasme et ils risquent de déchanter. D'ailleurs dans le Tarn, je raconte, ça n'a pas plu à Paul Quillès, c'est la seule engueulade que j'ai eue là, d'un type que j'ai rencontré, mais Paul Quillès est d'une humeur assez acariâtre parfois, parce que la mine près de Carmaux avait fermé, et donc la mine qui avait été relancée par François Mitterrand en 81, qui se souvenait de Jaurès, et donc ils avaient creusé une mine à ciel ouvert. Et puis au milieu des années 80, ça ne marchait pas du tout, donc ils ont été obligés de la fermer. Et ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire de ce cratère. Et Paul Quillès a fait ses calculs de polytechnicien et s'est dit qu'on pouvait faire un parc d'attractions. Et donc ils ont fait Cap Découverte, qui est un gigantesque parc d'attractions. Sauf que les gens, ils n'ont pas du tout accroché, parce que pour eux c'était la mine, et la mine, on va pas rigoler dans la mine. Donc ça n'a pas marché du tout, et ça a été un gouffre financier énorme, et ça a valu d'ailleurs à Paul Quillès, pour ça qu'il m'en veut sans doute d'avoir remué ses souvenirs, ça lui a valu son poste de député, parce que aussi les copains socialistes en ont profité pour lui régler son compte. La disparition des paysans, là, dans l'équilibre des territoires, c'est terrible. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'activité agricole, ça veut dire que simplement que ceux qui travaillent la terre ou ceux qui font de l'élevage ne sont plus des paysans au sens classique. Il y avait différentes activités, qui avaient un poulailler quelque part. Ce sont des entrepreneurs agricoles, c'est-à-dire qui ont besoin, tout le monde m'a raconté ça dans toutes les régions, qui ont besoin au minimum d'une centaine d'hectares, qui ont besoin d'un équipement invraisemblable, qui sont dans des dépendances à l'égard des subventions agricoles terribles, qui a un petit côté humiliant avec la peur des contrôles. C'est assez drôle, j'ai une discussion avec des céréaliers qui expliquent que de temps en temps ils ont des contrôles. Alors les types contrôlent sur les surfaces, leurs surfaces cultivées, puisque leurs subventions viennent de la surface cultivée. Mais est-ce qu'on tient compte du chemin qui est entre deux parcelles ou pas. Alors, en fait, parfois ils font ça par hélicoptère, parfois ils font ça par GPS. Alors, ils se trompent. Enfin, c'est des choses assez étranges. Et le fait qu'on n'ait plus de paysans mais des agriculteurs a aussi des éléments assez cocasses. Par exemple, dans le pays de Puisaye, il y a des néo-ruraux qui ont installé une ferme pour faire connaître la campagne. Alors on peut se dire, faire connaître la campagne dans le pays de Puisaye, on est quand même à Puisaye-Forterre, qui est une zone très très agricole, là, assez céréalière. C'est un peu curieux. Bon, Auxerre, on peut vite aller voir la campagne, on n'a pas besoin d'une ferme. Eh bien, en majorité, ils ont aussi des enfants d'agriculteurs qui, en fait, ne savent pas à quoi ressemble un lapin. Parce que pour eux, l'agriculture, c'est des grandes surfaces cultivées avec du matériel ultra-moderne. Donc la campagne est plus ce que l'on croyait. Je conclue. Alors, sur le « est-ce que mon livre est pessimiste ?» C'est vrai que j'ai rencontré des gens qui ont des vies très dures. Mais en même temps, enfin, je citerai simplement un exemple, puis ensuite on parlera dans la discussion. Un type qui m'a beaucoup impressionné, ouvrier paysan, alors lui paysan, en Savoie, sur les hauteurs dans les montagnes savoyardes, au-dessus d'Ugine. Double activité, c'est-à-dire qu'il se lève à 2h du matin, ça c'est vraiment la France qui se lève tôt, il traie ses bêtes. Et puis il va faire ses 3-8 à Ugitec, à l'entreprise métallurgique. Et puis il revient. L'intérêt des 3-8, c'est que vous commencez tôt, mais vous terminez relativement tôt. Et ça lui permet de s'occuper de ses bêtes. Il a fait ça pendant des années et des années. Et il a fatigué, évidemment. Ce qui fait que là, il a mon âge, il a 55 ans. Il vient de partir en retraite parce qu'il était totalement épuisé. Et il a l'air d'avoir 10 ans de plus que moi. Il n'a pas d'économie. Il n'a pas d'économie parce qu'il m'a expliqué qu'une partie de la paye d'ouvrier, ça lui servait pour son matériel agricole, etc. Alors, vous savez, il faut se méfier de ce que disent les gens. De ce point de vue-là, par construction, mon livre, je n'ai pas fait d'enquête, c'est un voyage. Cela dit, s'il a des économies, je sais bien que parfois les paysans meurent riches, mais enfin, si en tout cas, il vit dans une certaine, disons, simplicité. Et en même temps, il n'avait pas l'air malheureux du tout. Je veux dire, en tout cas, il était plus enjoué que beaucoup d'intellectuels parisiens qu'on peut rencontrer, qui promènent leur spleen, ou de cette petite bourgeoisie intellectuelle qui est parfois plus désespérante. Donc, je ne veux pas dire par là que laissez-les dans la misère, ils sont heureux. C'est pas du tout mon discours, mais c'est de dire que c'est assez frappant qu'à partir du moment où, lui, il avait l'impression quand même d'avoir maîtrisé son entreprise agricole. C'était très intéressant ce qu'il disait sur l'évolution du travail à l'usine. Il trouvait que les jeunes étaient beaucoup moins motivés. Hein, il faudrait citer, là, je peux pas, mais beaucoup moins motivés aujourd'hui. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il était content de partir. Donc j'ai rencontré quand même non seulement des tas de gens qui étaient contents, fiers de ce qu'ils faisaient. Il y a une fromagère aussi, rencontré beaucoup de fromagers, il y en a déjà un faible pour le fromage, elle fait son fromage l'été dans un fort en altitude, elle dit le bonheur est ici, et c'est vrai qu'avoir cette maîtrise de son univers, c'est source de bonheur. Et comme par hasard, ceux qui n'ont pas cette maîtrise, hein, comme les ouvriers des fonderies, qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, eh bien, eux sont dans une situation d'angoisse nettement plus palpable.